With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du cinéma, mon pauvre Mathis? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de partir en vacances, laisse-moi tranquille. Et puis, je vais te dire, j'ai jamais vu un film en entier.
Cal, par contre, ça tourne déjà, en fait.
Alors, vous êtes bien dans le dernier épisode de la première saison du Seul avis qui compte. Jingle! Avez-vous déjà lu la page Wikipédia de Blaise Pascal un dimanche matin? Si la réponse est non, alors vous faites partie des gens heureux, dont même la traditionnelle gueule de bois post-samedi soir ne parvient pas à rompre votre air de ravi de la crèche. Si la réponse est oui, je ne peux plus rien pour vous, mes pauvres. Vous avez définitivement sombré du côté obscur du dimanche, où toute page Wikipédia mortifère est bonne à lire pour aggraver encore votre état de seum. Vous êtes sans doute là, à l'heure actuelle, en train d'écouter ce texte en même temps qu'une sonate de Bach, histoire de définitivement tailler les veines de votre amour pour l'existence. Je vous raconte ça parce que moi, dimanche dernier, j'ai lu 3 fois la page Wikipédia de notre ami Blaise Pascal et aussi 5 fois celle du criminel Otis Toole, qu'on appelle communément le cannibale de Jacksonville, tellement je préférais tout faire que d'écrire cette chronique. Je crois même que j'ai fait la vaisselle à un moment donné, tiens, c'est vous dire. Non, mais je vous jure, je suis plus fatiguée d'avoir élaboré des plans pour rien foutre, pour procrastiner, que je l'aurais été si j'avais simplement travaillé. C'est fou, non ? Ah bah non, c'est juste français. Alors pourquoi ce niveau de flemme ? Mais parce que je suis au bout du rouleau, mes amis ! Je suis ratatinée par la locomotive de l'existence ! Comme chaque année en juin, mon cerveau is totalement vide. Heureusement, là, les grandes vacances arrivent. Alors comme je suis un être humain hautement prévoyant et surtout altruiste, évidemment, vous le savez, j'ai décidé de clôturer cette première saison du Seul avis qui compte avec un épisode spécial sur les meilleurs films de cette première moitié de 2022, histoire que vous puissiez rattraper votre éventuel retard ciné. Voici donc le seul top qui compte. Numéro 1, je suis déjà fatiguée putain, The Innocence du Norvégien Eskil Vogt. Alors, moi, j'ai jamais pu blairer plus de 10 minutes d'une production Marvel, mais le petit film qui a rien à voir avec Marvel, ne confondez pas tout, The Innocence a su me réconcilier avec les histoires de super-héros. Il faut dire que ceux-là ont troqué les capes et les moule-bites contre les tourments de ceux qui nous habitent quand on n'a même pas 10 ans. The Innocence, c'est l'histoire de Anna, Aisha, Ben et Ida, des enfants qui vivent dans une cité HLM en Norvège et se lient d'amitié pendant leurs vacances. Des vacances dont moi-même j'ai bien besoin, je le rappelle. Mais ils ne sont pas des gamins comme les autres. Non, ils ont des super pouvoirs. Et si Aisha et Anna s'en servent pour s'entraider, Ben, un enfant négligé par sa mère et visiblement perturbé, s'en sert pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Une vague de violence déferle alors sur la cité HLM où les meurtres se succèdent. Avec The Innocence, dont je peux quand même toutefois pas ignorer les longueurs, hein, surtout dans son premier tiers, je veux dire 45 minutes c'est trop long Michel hein, pour démarrer les hostilités, Eskil Vogt signe un film taiseux mais inoubliable sur les terreurs enfantines qui méritait largement sa place de numéro 1. Alors changement d'ambiance totale avec le film qui occupe la place de numéro 2, et putain chaque minute qui passe où je suis pas en Grèce et j'ai envie de crever, donc cette place numéro 2, je suis trop fatiguée, je dis n'importe quoi, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, qui ne raconte strictement rien d'intéressant, mais fascine tout de même, et ça, c'est un exploit.
Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme.
Je vais te dire une chose, jeune fille.
Et comment t'es devenue une si grande vedette ?
J'ai la comédie dans le sang, c'est toute ma vie.
Licorice, ça veut dire réglisse en anglais. La réglisse, on aime la torsader ou l'étirer en de longues tiges avant de la rouler sur elle-même pour obtenir des petits cercles plats. Imaginez les cercles noirs et luisants de votre enfance, celles qui fondaient dans votre bouche, mais dans des proportions plus grandes, plus larges de la taille d'une pizza, et comme par miracle, vous obtenez un vinyle. Un vinyle qui jette du Nina Simone ou du Mason Williams, comme dans l'hommage de Paul Thomas Anderson aux années 70, aux boutons d'acné, au crop top, à la Californie et aux premières amours, bien sûr. Licorice Pizza, c'est l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine, deux jeunes Américains qui doivent composer avec le starter pack qui leur a été distribué, c'est-à-dire des hormones en ébullition, des envies rebelles, de l'acné et des coupes de cheveux de merde pour l'un, un caractère bien trempé, un appareil photo, une grande gueule et des crop tops pour l'autre. C'est surtout l'histoire d'un premier amour qui naît comme tant d'autres autour de la musique, de quelques fêtes, d'une timidité cachée sous une mèche et une fausse gouaille. Mais ce premier amour a ceci de différent, sinon on aurait encore été dans une teen rom-com de l'enfer, là tout ce qui est de plus convenu, qu'il explore la Californie des années 70, joliment hantée par le fantôme d'Hollywood et ses déceptions. Numéro 3, c'est Spencer de Pablo Larraine et je dégouline de fatigue. J'ai une mare aux pieds, tellement c'est un supplice de ne toujours pas être en vacances.
Est-elle arrivée ?
Non, pas encore, madame.
Elle est en retard dans ce cas.
Elle est en retard.
Alors, de quoi ça parle, Spencer ? Eh bien, ça parle de Lady Di. Et de Lady Di, eh bien, vous connaissiez sans doute la traque des paparazzi, la tromperie de son mari, ses querelles avec la famille Windsor, son carré broché et bien sûr, son décès tragique. Mais dans quel état psychologique son statut d'oiseau à abattre l'a-t-il mené ? Comment traverser l'existence quand on est un agneau dans une louverie ? Pablo Larraine propose quelques réponses dans son uchronie Spencer, un drame précieux et singulier qui obsède sitôt qu'on lui cède. Mathis, je vois que tu ne m'écoutes pas, et c'est très dommage, car dans ce biopic fictif très taiseux, il n'y a de place que pour Diana et sa souffrance. Les autres protagonistes font figure d'anecdotes, n'existent que pour servir la descente de leur agneau à l'abattoir. Pablo Larraine a fait le choix de concentrer l'intrigue uniquement sur ce personnage, décimant les premières couches de sa psyché pour en ausculter ses tréfonds dans un film qui flirte avec l'horreur. J'avais dit ça un jour dans un article et les gens m'ont dit « pas du tout, ça flirte pas avec l'horreur ». Moi je trouve que si, donc flûte. C'est sur fond de musique lancinante, presque effrayante, qu'il déroule, quand je dis « il », c'est toujours Pablo Larraine, le sujet était un petit peu loin là du verbe, qu'il déroule sa sublime photographie et dans un château presque hanté qu'il nous perd comme dans un labyrinthe. Spencer finit par créer un effroi supérieur à celui de la majorité des films d'épouvante et nous fait craindre non seulement pour la santé mentale de Diana, mais aussi pour sa sécurité. Dans cette maison, où elle est emprisonnée et où les murs ont des oreilles, elle risque à tout moment de sombrer définitivement et c'est ce seul suspense qui compose l'intrigue entière du biopic.
Numéro 4, je décède à petit feu, c'est Decision to Live de Park Chan-wook.
Decision to Live, c'est le nouveau thriller de Park Chan-wook, le cinéaste sud-coréen de génie, et je pèse mes mots, qui a notamment donné vie aux acclamés Mademoiselle, Old Boy et Thirst.
Thirst.
Laisse-moi tranquille. Son nouveau film, à Park Chan-wook, est une sorte d'hommage à Sueur froide, l'œuvre incontournable d'Hitchcock, et raconte l'histoire de Hai Jun, un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Très rapidement, les soupçons de notre enquêteur se portent sur la compagne du défunt, une chinoise mystérieuse qui parle un coréen soutenu et porte sur le corps les stigmates des violences de son mari. Hai Jun, contre toute morale et contre la bonne avancée de l'enquête, tombe fou amoureux de cette potentielle criminelle et c'est toute sa carrière qui commence à s'effriter. Decision to Live, c'est le film le plus opaque de son réalisateur qui, via une narration non linéaire et un peu trop d'effet de manche à mon goût, embrume pas mal le cerveau. Perso, j'ai pas tout pigé, surtout à la seconde partie, mais la mise en scène archithéâtrale, la photographie d'une beauté implacable et les dialogues super lyriques font de Decision to Live, et en dépit de mes nœuds au cervelet, l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et de loin. En même temps, bon, il était en face de Frères et Sœurs, de Desplechin au box-office, donc bon, voilà quoi. Numéro 5, et je sais pas si ça sent le poulet dans cette pièce ou si c'est mon corps qui se décompose de fatigue, c'est Samhain, You Are Not My Mother, et il faut le dire avec cet accent-là, sinon ça ne marche pas. Alors pour cette cinquième et ultime place, ouais, j'ai décidé de complètement tricher et de vous parler d'un film qui ne sortira qu'en décembre 2022, mais je fais ce que je veux, c'est mon podcast, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et surtout, en fait, pourquoi je vous parle de ce film, c'est parce que j'avais envie de mettre en lumière le travail singulier de Kate Dolan, réalisatrice irlandaise, dont ce premier long métrage est trop confidentiel, je le sais, pour qu'il ait droit en décembre aux égards du grand public en salle. Et j'aimerais apporter ma toute petite pierre à l'édifice de ce qui, j'espère, sera quand même un tout petit succès. Parce que Samhain, You Are Not My Mother est un excellent, mais un excellent film d'horreur féministe, comme il n'en existe que trop peu.
We're still trying to figure out what happened. When did you last hear from her?
She left to bring her to school.
Alors c'est l'histoire de Charlotte, une adolescente mal dans sa peau qui vit l'enfer. À l'école, elle se fait harceler par les élèves et à la maison, elle s'occupe de sa mère qui traverse une intense phase dépressive. Un jour, sa mère fait une fugue de 24 heures et quand elle revient, Charlotte a l'étrange impression que même si le visage et le corps de sa mère sont les mêmes, eh bien, sa mère n'est pas vraiment sa mère. Est-ce que vous avez suivi ? Ok, c'est bien. Le monstre ici, c'est la famille, le foyer de l'horreur, la maison où l'on grandit, l'enfer, les traditions. D'ailleurs, Samhain, c'est le nom de la fête qui correspond à peu près au Halloween irlandais. Voilà mes petits chats cinéphiles, allez, je me casse en Grèce. Mais avant, j'ai envie de préciser que l'exercice d'un top est très compliqué à réaliser parce qu'en réalité, comparer des films entre eux qui appartiennent tous à des genres différents, ont tous des velléités différentes et n'ont pas tous eu les mêmes moyens de production, ça n'a que peu de sens. Ces 5 films que j'ai choisis auraient pu en vrai figurer à la première place comme à la 28e de mon top personnel. Seulement, il fallait faire des choix. Il en va ainsi de la loi des tops. Et je raconte vraiment n'importe quoi. Alors je voudrais rendre un hommage à tous les films que j'ai pas pu mettre dans ce top et qui auraient pourtant largement mérité leur place. Et je vais le faire en mime.
Non mais Cal, c'est un podcast, ça va jamais marcher.
Je vais plutôt le faire en mode de voix de film français. Murina de Antonietta Alamat Kuzijanovic. Medusa de Anita Rocha de Silvera. The Northman de Robert Eggers. Conte du hasard et autres fantaisies de Ryuzuke Hamaguchi. À plein temps d'Eric Gravel. The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. La colline rugisse les lionnes de Louana Bajrami. Les passagers de la nuit de Michael Hirst. Scream de Tyler Gillett. La ruche de Blerta Bacholi. Men d'Alex Garland. Les jeunes amants de Karine Tardieu. Et encore tous ceux que j'oublie aujourd'hui, mais dont je me rappellerai quand j'aurai pris des vacances. En tout cas, lâchez tout de suite la plage Wikipédia de Blaise Boring Pascal, pour qui le divertissement était, je le rappelle, le pire ennemi de l'homme, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait qu'il venait de Clermont-Ferrand, et courez plutôt oublier votre condition insignifiante d'être humain, le réchauffement climatique, le recul des droits des femmes aux États-Unis et la naissance de Valérie Pécresse, en passant votre été au cinéma. Allez, bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée avec une haine toujours aussi vivace pour la frange de Juliette Armanet, et n'oubliez pas, à la fin, on meurt!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.